pour parler de John Cale et Lou Reed, les membres fondateurs du Velvet. Je vais prendre un disque qui n'est pas un album du Velvet, mais qui est un album de Lou Reed et John Cale, quand ils ont rendu hommage à leur mentor Warhol. C'est un album qui s'appelle Songs for Joella, qui est sorti dans les années 90, et qui est un album vraiment magnifique, quoi, vraiment la réunion de deux artistes phénoménaux, essentiels. Là, il y a un titre qui est assez drôle, qui est chanté par...
Juste, excuse-moi, la pochette, parce que donc la pochette est magnifique. Elle est toute noire et leur tête en noir-blanc apparaissent
dans le... Quand on regarde bien, il y a une espèce de surimpression comme ça avec l'image de Warhol. Vous voyez ?
Ah oui. Ah oui. Qui est un peu là, comme ça, qui est au milieu.
Mmh. Il est difficile à trouver parce qu'il est sorti dans des années où l'industrie du disque commençait à trouver que le vinyle, c'était vraiment... un objet, un support obsolète, et ils ont commencé à plus les faire, donc il est assez rare, celui-là, en fait. Et je suis bien content de l'avoir. C'est un album que j'ai écouté en boucle aussi. Et la première chanson s'appelle Small Town, elle est très drôle, elle raconte l'histoire de Warhol à la première personne. Un petit chef-d'œuvre remarquablement écrit par Lou Reed. J'y mets du temps à attaquer, mais.
C'est extraordinaire!
Ouais, c'est long, c'est dingue. Voilà.
When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. If art is the tip of the iceberg, I'm the part sinking below.
Ça pourrait durer toute la journée, ça.
Je reste persuadée qu'il savait que c'était sa vie, que c'était, et que c'était ce chemin qu'il voulait suivre. C'est vraiment, au sens littéral du terme, un artiste. C'est quelqu'un qui construit, voilà, qui construit une œuvre.
Les médias francophones publics vous proposent...
Globalement, ça va. Enfin, je veux dire, je ne suis pas de...
Dao, fan de pop.
Je suis assez...
Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer.
Spontané, je crois. Je dis pas mal de choses. Donc voilà. Et puis, bon, il y a des choses qu'on lâche parfois. C'est pour ça que j'aime bien la radio. Et en fait, j'aime bien les choses en live et j'aime bien la radio. Parce que même si on peut remonter en radio, quand on dit des choses, il y a le ton. Et avec le ton, on a le vrai sens des choses.
Avant Dao. Retour pour ce cinquième épisode sur les débuts de Dao, les tout débuts, ses premières maquettes, avant la sortie de son album initial en 81, Mythomane, produit par Jacques No. Conversation avec tous les témoins clés de cette époque, dont Elie Medeiros. Étienne Dao, fan de pop, mais aussi passeur de pop, avec toute une nouvelle génération mise en lumière par lui, de Rhône à Calypso Valois, en passant par Flavien Berger.
Je l'avais surpris, on allait en laboratoire de langue.
Françoise Tison, professeur d'anglais d'Étienne Dao.
Et en terminale, ils étaient supposés travailler l'oral d'anglais sur des textes classiques, sur les Indiens, ou ainsi de suite. Et donc, il chantait son commentaire qu'il avait plus ou moins appris par cœur pour le bac. Et voilà, mais c'est... Non, rien, j'avais pas du tout décelé un talent et surtout la réputation qu'il s'est fait après et qui continue à le poursuivre à chaque fois ça m'étonne.
Le désert, le désert. sens que l'on peut toujours passer à côté. Si la fortune ne sourit point et que l'on passe à côté du baiser du destin. Pour se ramasser, serait-ce le libre choix ou la destinée? Quand l'infortune sourit en coin et que l'on passe à côté du baiser du destin. Ces lignes comme les nervures d'une feuille, où la fortune des rois vient se poser. Se baisser pour tout amasser, sachant que l'on peut toujours passer à côté. Si la fortune ne sourit point et que l'on passe à côté du baiser du destin.
Dao, fan de pop.
J'avais un groupe qui s'appelait TV Sylvan Five, d'après un morceau de David Bowie.
Richard Dumas, photographe et guitariste d'Étienne Dao sur ses premières maquettes.
Et c'est toujours le problème dans un groupe, on ne sait pas qui va chanter. Souvent on chante par défaut. Mais j'avais envie d'aller chercher en dehors du groupe. Et souvent je voyais Étienne, comme il était étudiant, il se faisait un peu de sous en vendant des disques. J'ai un disquaire.
Et le soir j'étais DJ dans une boîte de nuit. Donc je dormais 3 secondes par nuit, quoi. Donc, et il m'a dit, t'as une bonne tête, t'as une tête de chanteur, faut que tu sois le chanteur de mon groupe.
Ah bon, vous croyez? Non. Bon, peut-être je passerai à essayer à la prochaine répétition, et puis en fait on le voyait jamais.
J'aimais la musique, je projetais vaguement comme ça de faire des chansons, mais tout d'un coup de chanter avec les autres... me retrouver devant un micro, ça me paraissait insurmontable. Donc il est venu me chercher plusieurs fois chez moi, les dimanches, pour que je vienne aux répétitions. Et puis j'étais derrière la porte, j'ai jamais ouvert en fait. J'étais tétanisé d'un coup d'avoir à me montrer devant les autres, quoi. D'avoir ouvert la bouche.
J'ai même fait sa toute première pré-maquette avec lui.
Jean-Éric Perrin, à l'époque journaliste à Rock & Folk.
En tant que technicien, avec une espèce de vieux, les magnétophones à cassette qu'on avait à l'époque, où il y avait un bouton qu'il fallait tourner à droite ou à gauche pour avancer, reculer, et puis pousser comme ça, et puis un petit micro directionnel. Et donc, il jouait de la guitare sur une seule corde, parce qu'il savait pas jouer de guitare. Il avait composé comme ça 2-3 chansons, 2-3 mélodies. Et moi, je dirigeais le micro, j'étais vraiment un ingénieur du son de pointe, je dirigeais le micro alternativement vers sa voix quand il chantait, vers sa bouche, et vers la guitare quand il essayait de faire 2-3 notes de guitare. C'était vraiment, je pense, les avant-prémices de sa carrière.
Un jour, j'étais en train de boire un verre en terrasse et soudain, Étienne apparaît, je le vois, il avance avec des amis et puis il vient me voir et me dit « Tu joues encore de la guitare, Richard ?» Je dis « Oui, oui, oui. » Il me dit « Non, parce que j'ai quelque chose à te faire écouter. J'ai enregistré des morceaux, j'ai enregistré des chansons, j'ai fait des musiques, des paroles et tout ça. Et si on pouvait se voir, ça serait bien. »
Étienne n'était pas un musicien.
François Ledez.
Ce n'était pas un chanteur.
Ami d'enfance d'Étienne Dao.
Ce n'était pas un compositeur. Il est parti avec des arguments très pauvres. Et de cette pauvreté, il a fait quelque chose d'étonnant.
On ne savait pas qu'il voulait chanter.
Sylvie Coma, amie d'Étienne Dao.
Il a fait son coming out comme ça un soir. Tout le monde l'a regardé éberlué. Et ce qui est très drôle, c'est que finalement, c'est tombé sous le sens. C'est-à-dire que quand il a commencé à faire ses maquettes plus ou moins bidons au début et présenter ses textes, bah, tout le monde a trouvé ça. Mais oui, au fait, c'est évident. Tout le monde a compris qu'il y avait quelque chose.
Il m'a dit après que c'est parce que son astrologue lui avait dit qu'il devait chanter.
Franck Darcel, Marquis de Sade.
Alors moi, je ne connaissais pas bien l'astrologie, je ne connais toujours pas très bien, mais je me suis dit, ben, pourquoi pas.
Je ne pensais pas du tout qu'il ferait de la musique et qu'il chanterait surtout.
François Stizon, professeur d'anglais d'Étienne Dao.
Parce qu'il était quand même assez timide, il n'avait pas une voix de chanteur, enfin, à cet âge-là. J'ai su quand même, après la terminale, comme j'habite dans le centre-ville, je le voyais très très souvent déambuler avec ses copains, qui faisaient tous de la musique, plus ou moins, et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pensé qui pourrait faire de la musique.
On s'est retrouvés, Étienne et moi, à travailler à partir de la cassette qu'avait enregistrée Étienne. On a enregistré à peu près, sur deux après-midi, un bloc de travail qui était proche de Mythomane, en fait.
Ouais, d'ailleurs, il m'a ramené, il y a quelques années, toutes ces maquettes, guitare et voix, où... C'est extrêmement incroyable d'écouter ces maquettes parce qu'on fabrique ces chansons et c'est comme si j'étais le témoin d'une scène extrêmement intime et que je rentrais dans ma chambre d'adolescent.
Il faudrait qu'on sache combien de temps il y a après la chanson. Parce que moi, je sais jamais combien de temps.
Ça m'a fait beaucoup de grande impression d'écouter ces maquettes.
C'est si bon, j'écoute. Cette chanson.
On parle, on rigole.
Tu vois, t'as un contrôle.
Les chansons sont en train de se faire.
Elle dit les mots, non, je recommence là tout le temps.
Ah oui, bah alors c'était pour ça. Alors, c'est pour ça que j'avais.
C'est incroyable d'avoir retrouvé ça. Vraiment, vraiment.
C'est si bon. J'écoute encore cette chanson. Elle dit les mots que je te lirai.
Je trouve vraiment que tout était là et rien n'a changé. C'est un cliché de dire que les gens qui ont du talent, on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'ils font toujours la même chose. Mais une fois qu'on pénètre dans leur univers, on s'aperçoit que c'est d'infimes variations qui font tout l'intérêt de leur travail.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quelquefois? J'aimerais bien être dans ta tête quelquefois. Ça commence bien pour toi. Ça commence bien. Tu vas
chanter un peu plus fort.
Tu crois?
Donc j'avais reçu une cassette avec des démos, enfin plusieurs chansons, et il me disait, avec un petit mot dans lequel il disait, est-ce que tu crois que ça pourrait intéresser quelqu'un.
Élie Médéros.
Il n'avait pas osé me dire, je voudrais chanter, il m'a envoyé ça comme, est-ce que tu crois que quelqu'un serait intéressé pour chanter ses chansons ou quelque chose comme ça. Et moi, je les avais écoutées et j'avais tout de suite dit, pourquoi tu veux que ce soit quelqu'un d'autre qui les chante? Ce sont tes chansons, c'est ta voix, il faut que tu les chantes toi-même. Et j'en avais parlé à Jacques Dombes, qui à l'époque commençait à faire de la prod, enfin de la réalisation, que je savais que ça l'intéressait beaucoup. Et j'avais dit, mais regarde, Étienne, il a fait des maquettes, c'est super, il faudrait se pencher là-dessus.
Et donc ça nous donne une première maquette enregistrée sur un magnéto 4 pistes que Étienne et moi nous sommes allés présenter bras dessus chez un directeur artistique d'Ariola
à Paris.
À Paris. Et Nous sommes entrés dans ce grand bureau auditorium dont les murs étaient tapissés de gigantesques enceintes. Le directeur artistique a mis la cassette et au bout de, je sais pas, 15 secondes, il a dit d'un ton ferme, définitif, point final, avec ça, vous ne signerez jamais.
Avec ça, vous ne signerez jamais. Et j'étais avec mon amie Sylvie Coma qui m'avait accompagné, on avait fait l'aller-retour en train. Évidemment, pour nous, prendre le train, ça coûtait une fortune. C'était vraiment mes économies de... c'est vraiment, c'était important de monter à Paris pour faire écouter ça et repartir. Mais je me souviens qu'on s'est retrouvés sur le trottoir, on était mais pliés de rire, quoi. Je me souviens pas d'avoir été déçu. Il y avait quand même chevillé au corps la certitude qu'il avait rien compris et que quoi qu'il arrive, ce serait bien un jour, malgré tout.
Étienne, quand il a quelque chose dans le crâne... Il va jusqu'au bout. Il est déterminé.
Ça commençait quand même à prendre de l'espace dans mon cerveau. Je commençais à avoir la sensation que j'étais en train de faire quelque chose qui me ressemblait, qui était moi en tout cas, et que peut-être que ce serait bien un jour.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Quelquefois. J'aimerais bien être dans ta tête, quelquefois. Ah, c'est pas que je cherche la petite bête, mais pour moi c'est un vrai casse-tête. Il y a de quoi s'y perdre, quelquefois. Faudrait-il que j'incarne le héros? Daigne enfin poser les yeux sur moi. Ah, maître Tarzan la banane, ou Robinson dans sa cabane, ou Carl James Dean, pourquoi pas même Dracula.
Parisienne, Dao rentre en Bretagne et se tourne vers Franck Darcel, dont le groupe locomotive de la scène New Wave rennaise, Marquis de Sade, vient de se séparer. Les planètes s'alignent, la carrière de Dao peut commencer. Mythomane, le premier album, est sur le point de naître.
Et c'est devenu une première maquette très chiadée qui était produite par Franck, qui a vraiment défini mon son, véritablement. Même si je savais ce que je voulais, il a quand même designé le son de mes débuts. Il a été extrêmement important puisqu'il il a écouté, il m'a écouté, il m'a compris. On était très potes, donc on avait aussi une vie commune, on sortait ensemble, on buvait ensemble, on allait dans les boîtes de nuit ensemble, enfin on faisait partie du même groupe de gens. Et donc le travail entre guillemets des chansons, c'était qu'une extension de tout ça, quoi. Ça faisait partie de l'ensemble de la relation.
Voilà, on était une bande de copains et se rendre service entre nous tous, et parfois c'était transdisciplinaire parce qu'il y avait des peintres avec nous, des photographes, etc. On posait les uns pour les autres, on s'arrangeait, donc ça faisait partie de cette manière de fonctionner, de se dire tiens, on va aider Étienne à faire ses maquettes, voilà. Mais voilà, ça semblait frais et différent de la variété française qu'on entendait jusque-là, et après il fallait savoir ce qu'on allait en faire en studio, quoi.
Il a vraiment façonné un son qui était sublime, vraiment qui dure encore aujourd'hui, qui a fait école. Il m'a vraiment aidé à me projeter dans un son comme celui-là, même si je le validais, je n'avais pas la maturité de toute façon à l'époque en studio pour pouvoir trop la ramener. Et j'étais le premier artiste de Virgin France. Et donc, Patrick Zelnick, qui était le président de la filiale française, il a produit cet album, donc avec les musiciens de Marquis de Sade, et produit par Jacques Nau. Ils étaient atterrés que je veuille Jacques Nau. Mais pour moi, c'était important de faire un album qui soit un album avec des gens que j'aimais, qui soit avec des gens qui étaient proches de moi. Et l'album a été un flop considérable.
On en parle du Mythoman, hein.
Très très peu, oui.
Ouais.
C'était vraiment c'était un gros insuccès.
En fait, nous, on signait des artistes qu'on aimait.
Dominique Leguerne, ex-directrice de marketing.
Et puis à l'époque, on signait des artistes pour des carrières. On signait pas un artiste pour un single ou pour un album en se disant si ça marche pas, c'est pas grave, on en trouvera un autre. C'était du long terme, on s'engageait sur le long terme.
Sur la pochette, Étienne porte un blouson rouge. C'est vous qui lui avez offert, c'est juste ?
Ah oui, c'est moi.
Élie Médéros.
C'est mon blouson rouge. En fait, j'avais ce blouson rouge que j'avais dû acheter au puce, que j'avais beaucoup porté. J'ai des photos sur scène avec les Stinky Toys et je portais ce blouson. Et Étienne l'aimait beaucoup.
Je me fiais complètement à son goût. J'étais habillé comme un as de pique. Quand on voit toutes les photos de moi dans les années 80, enfin avant, quand j'ai commencé à chanter, c'était des empilages de vêtements aussi, parce que j'avais pas forcément toujours un lieu pour dormir, donc j'avais un peu tout sur moi, j'étais un peu ma propre valise. Mais au bout d'un moment, elle a mis un peu le holà, quoi. Elle m'a offert un blouson rouge que j'ai porté pendant des années. Qu'il vente, qu'il neige, par moins 12. C'est un petit blouson un peu James Dean, très très fin, qu'il y a sur la pochette de Mythoman.
C'est Giacomoni qui a fait la photo.
Tristan Béra, commissaire d'exposition.
Et puis c'est l'éclosion absolue. Il y a un côté un peu chanteur de rockabilly, crooner. Il a quasiment presque une banane timide, je dirais. Il a une banane timide.
Toutes les photos de mes débuts sont des photos qui ne me ressemblent pas. Ce sont des espèces de photos fantasmées. La photo de Mythoman est une photo floue, presque. Les contours flous. Alors je suis tout sauf quelqu'un de flou dans la vie. Mais ça me permettait cette distance qui faisait que je pouvais éventuellement ressembler à quelqu'un qui aurait pu me plaire. La coquetterie, probablement.
Et puis surtout, c'est Élie Médéros qui a fait la direction artistique de l'image et de la pochette. C'est un album qui lui est dédié.
L'album lui est dédié, oui. J'avais dédié une seule chanson, j'avais marqué une chanson pour un peu noyer le poisson. En fait, c'est tout l'album.
Ah. C'était très touchant, et en même temps, on prenait ça, je pense, avec un peu de la légèreté, et puis c'était un peu des amitiés amoureuses qui nous liaient tous à l'époque.
Il y a beaucoup de choses dans vos chansons qui sont dites et qu'on peut peut-être décoder, ou peut-être pas d'ailleurs.
Ça, c'est à la bonne volonté de l'auditeur. Ou à l'envie. Ou à la curiosité, ou à l'intuition.
Mythoman, donc ça relève donc d'une part donc autobiographique, sans aucun doute.
Benoît Ledez, ami d'enfance d'Étienne Dao.
Lorsque moi j'ai pris connaissance de l'album, j'ai tout de suite fait le lien. Je crois que la mythomanie chez Étienne peut être associée donc à une certaine solitude. J'ai un souvenir précis concernant Jeanne Moreau. Il m'a raconté qu'il devait la rencontrer la veille ou l'avant-veille, et que le rendez-vous avec Jeanne Moreau, en définitive, ne s'était pas fait, du fait que Jeanne Moreau, donc, lors d'une répétition de théâtre, était tombée dans la fosse d'orchestre. Bon, ceci dit, donc, comme vous le savez, il est devenu la meilleure amie de Jeanne Moreau. Par la volonté, en fait, hein, comme je vous le disais, donc, il a fait de ses rêves une réalité, quoi.
Étienne était un peu mythomane et avait ce côté de raconter un peu des cracks, quoi.
Franck Darcel, Marquis de Sade.
Mais il l'admettait, donc déjà c'est pas une mythomanie tout à fait classique, puisqu'il admettait quelques temps après que c'était pas vrai ce qu'il avait raconté. Et donc il faisait amende honorable. Mais surtout, certaines choses qu'il a racontées à une époque et qui étaient un peu romancées ont fini par se produire. Alors, dans ce cas-là, c'est pas de la mythomanie, c'est de la voyance. J'appelle ça comme ça. Quand on a raison trop tôt, ça n'est pas forcément mentir.
J'ai écrit des choses tellement, tellement, tellement personnelles, beaucoup plus personnelles que la plupart des gens, je trouve. Quand on dit que je suis secret, alors vraiment, c'est une fausse idée, quoi. C'est une idée complètement, complètement fausse. Il suffit de lire mes textes, tout y est. Alors peut-être que certaines chansons sont un peu... ont des formules un peu poétiques qui peuvent peut-être... modifier la perception des choses, mais tout y est, tout. Il ne dira pas je m'y suis pas tenu du tout. c'est une chanson que j'ai trahie, en fait, d'une certaine manière.
Certaine tendresse pour une de ses premières chansons qui est Il ne dira pas.
Jean-Éric Perrin, journaliste et écrivain.
Parce qu'effectivement, c'est peut-être celle qu'il avait chantée quand j'avais fait avec lui cette espèce de fausse maquette, et que c'était les tout débuts d'une histoire dont ni lui ni moi ne pouvions imaginer qu'elle prendrait ce tour-là et qu'elle aurait cette pérennité et cette durée dans le temps et cet impact et cette richesse artistique. Donc c'est vrai que voilà, il ne dira pas, quand j'entends les premières notes et que je l'entends chanter ça, ça me fait quelque chose de l'ordre de l'intime.
Il ne dira pas, non, il ne dira pas, un sourire, un geste, il est déjà vu là.
Dao est un connaisseur, mais aussi un passeur. Incollable en matière de musique actuelle, tout style confondu, il est à l'affût de tout ce qui se passe. Producteur de nombreux jeunes artistes, il n'est pas pour rien le parrain de la French Pop. C'est comme ça qu'il s'est rendu à un showcase du groupe Unloved, à Londres, pour leur proposer une collaboration.
C'est un nom que j'ai beaucoup entendu.
Flavien Berger, musicien.
Quand j'étais jeune, mais j'écoutais pas. Il faut souvent un bon prisme pour découvrir quelque chose qu'on va aimer vraiment. C'est souvent un prisme, justement, d'amour ou d'amitié. C'est lorsque quelqu'un que vous aimez vous fait écouter quelque chose qu'il aime. Ce prisme, c'est un de mes plus grands amis. On était en jeunes étudiants et il avait une cassette audio d'Étienne Dao dans sa cuisine. Et c'est la première fois que j'écoutais vraiment. C'est-à-dire que je comprenais que ça pouvait résonner avec des choses de ma vie. Donc j'ai découvert ça à la vingtaine avec Weekend à Rome en cassette audio. Puis la cassette audio, il y a quelque chose d'important, c'est que c'est un disque en petit et souvent les couvertures, enfin ce qu'on appelle les pochettes, elles sont encore plus rikiki. Et celle-ci, elle avait vraiment un charme du fait d'être petit parce que j'imaginais beaucoup de détails de la peinture qui m'auraient été révélés si ça avait été un vinyle ou même un CD.
Ça veut dire que ma musique ou que mon travail a contribué à nourrir le travail des autres. Et ça, il n'y a pas mieux pour un artiste. Ça, c'est un cadeau fantastique que de savoir que son travail a été à la base du travail de quelqu'un d'autre. Que ce travail l'a influencé, inspiré, qu'il en a fait autre chose avec son style. Oui, c'est important. C'est important.
Son image est quand même très différente des ces dernières années.
Patrick Péan, ex-manager d'Étienne Dao.
Par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans, et il a vraiment pris une place, il a pris une épaisseur dernièrement. C'est un autre genre de reconnaissance que celle justement du public presque maintenant. C'est plus une place privilégiée, un parrain, la guide, enfin vous voyez, c'est génial, c'est une évolution qui est formidable.
J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est très respecté.
Rhône, musicien.
Je me souviens que même un peu plus jeune, que je me souviens qu'avec tous les amis, on écoutait quasiment exclusivement du rap, du hip-hop, des musiques comme ça. Et en même temps, on pouvait très bien écouter Étienne Dao sans avoir à rougir. C'est quelqu'un qui a toujours eu une espèce d'aura... Dans mon entourage, on était vraiment très touchés par sa musique, ses textes aussi. Ça nous parlait, c'était des textes qui nous parlaient, une musique qui nous parlait. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est quasiment devenu une espèce d'icône vivante. C'est assez rare quand même comme phénomène, mais ça, il fait partie des rares artistes qui... Vraiment une légende vivante, quoi.
Quand les Arocs ont titré avec une photo d'Étienne le patron de la pop, parce que pour toute une vague de jeunes artistes...
Anne Claverie, ex-manager d'Étienne Dao.
Étienne Dao représente vraiment une qualité, une créativité très importante dans laquelle il se retrouve, et ça c'est quand même super d'avoir comme ça Calypso Valois, Flavien Berger...
Il a fait des petits, Étienne Dao.
Gérard Lefort, écrivain.
Il y a plein de jeunes musiciens et musiciennes d'aujourd'hui qui se réclament de lui comme d'un modèle, oui.
Je ne me préoccupe pas de cette différence quand je rencontre quelqu'un avec lequel je m'entends bien et dont j'aime la musique. C'était le cas avec beaucoup, avec les Scopes, François and the Atlas Mountains et des tas d'autres. Je ne peux pas tous les citer, mais il y en a eu beaucoup récemment. Yann Wagner, Calypso Valois.
C'est vraiment un amoureux de la musique. C'est comme quand il a organisé sa carte blanche à Playel, c'était en 2014, où il a invité des groupes de jeunes qui l'appréciaient et qui voulaient mettre en lumière dans cette soirée. Et voilà, bon, il y avait moi, il y avait plein d'autres, mais la plupart n'étaient pas du tout connus, parce que son but, c'était de faire découvrir des musiciens, des artistes qu'il appréciait.
qui lui a envoyé une petite débauche de morceaux. Il n'y avait vraiment pas grand-chose, hein, une petite gimmick faite sur un synthé comme ça qui devait durer 40 secondes. Et il m'a renvoyé très rapidement cette petite boucle avec sa voix par-dessus. Ça a donné le morceau mortel. Donc il a fait ça à distance, il m'envoyait ça, et moi de mon côté, je retravaillais un peu la musique en fonction de ce qu'il m'envoyait, je lui renvoyais, donc c'était un ping-pong. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était juste des relations épistolaires, où on s'envoyait des mails, on se parlait au téléphone aussi pas mal, mais on s'était pas encore rencontrés, quoi.
Pensées impures sur fond d'azur, pensées mortelles sur fond de ciel, au fond du bassin, Phainoxine, son corps m'entraîne au fond de la piscine. De la piscine. Transpercée de mille couteaux, elle balance au fond des eaux. Elle touche le fond et sa bande folle à mes démons. À mes démons.
Moi, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'écoute sa musique. J'ai commencé à l'écouter quand j'étais petite parce qu'il y avait des disques chez moi.
Calypso Valois, filleule d'Étienne Dao.
Et moi déjà, la première chose en fait qui m'a marquée, c'est que j'ai toujours aimé sa façon de chanter, sa voix, ce que j'appelle les voix droites. Moi aussi je chante comme ça, c'est-à-dire des voix qui ne sont pas maniérées et qui chantent de façon droite. Je ne sais pas si je l'exprime bien. Et voilà, et j'ai toujours donc aimé cette façon de chanter et puis son timbre qui est assez incroyable.
Mortel sur fond de ciel, au fond du bassin, Phainoxine, son corps m'entraîne au fond de la piscine.
Étienne, vous savez, il admire énormément d'artistes. Et donc, ça transcende, si vous voulez.
Françoise Hardy.
Quand on admire un artiste qui fait de la musique, ou autre chose d'ailleurs, c'est parce que quelque part, il vous transcende. Mais moi, en même temps, quand j'admire quelqu'un en général, je me sens toute petite à côté. Je ne sais pas si Étienne a ce sentiment-là, parce qu'il a fait tellement de choses exceptionnelles. Alors peut-être qu'au départ, ça le rapetissait dans son propre esprit. Mais là, il n'a plus aucune raison de se rapetisser. Moi, oui, quand même. J'en ai encore. Si, si. Si, si.
Alors la rencontre, Rhône et Étienne Dao se passent à l'Olympia pour l'un de vos concerts. Il accepte de venir chanter. Donc la première fois que vous le voyez arriver, ça se passe comment ?
Ouais, Étienne Dao et moi sur la même scène. En plus, on a vraiment joué le côté surprise, c'est-à-dire qu'on l'avait pas annoncé nulle part. Donc moi, il y avait tout mon public qui était là, l'Olympia complet et tout. C'était un super événement. Et Étienne Dao, je le faisais intervenir vers la fin du concert, comme ça, comme la cerise sur le gâteau. Il est rentré. Je pense que ça a beaucoup surpris les gens. Je crois que c'était un moment assez fort pour tout le monde, en tout cas pour moi, c'est sûr. Quand je l'ai vu, je me souviens que j'avais cette angoisse qui rentre pas sur scène. Je me souviens que je me suis dit, c'est pas possible, j'avais encore ce truc. En fait, l'idée, c'est que quand je commençais à jouer ce morceau, il y avait quelques secondes qui passaient avant qu'il rentre sur scène, et je me souviens que j'ai eu cette fraction de seconde d'angoisse en me disant, mon Dieu, il va pas venir. Et puis bon, voilà, il est apparu sur scène, il a assuré comme un pro, évidemment. C'était un très beau moment pour moi.
Aujourd'hui, c'est vrai que je m'aperçois que la longévité se fait parce qu'il y a des gens plus jeunes qui redécouvrent mon travail, et que c'est une des choses les plus importantes pour un artiste, c'est de renouveler son public et de voilà, de toucher des gens de toute génération en transversal.
Sa voix est très très incarnée, elle ne ressemble qu'à lui.
Flavien Berger, musicien.
Même s'il l'a fait évoluer, elle est constante sur toute sa carrière. Et c'est sa signature autant que son incarnation. Et de fait, elle a ouvert une manière de chanter, je pense, pour pas mal de musiciens. Je pense que j'en fais partie. J'en fais partie inconsciemment. Avant de sortir mon album Léviathan, j'ai fait deux petits albums, des maxi. Il y a un morceau qui s'appelle Océan Rouge qui, en toile de fond, est très très inspiré de l'univers de Dao, je pense. Et je m'en suis rendu compte que plus tard. Parce que justement, il est incarné dans notre culture, dans la culture musicale, dans la culture populaire. Et souvent, on peut avoir des influences inconscientes, tellement il y a des évidences d'affiliation musicale.
Dao, fan de pop.
Inversement climatique, cette nouvelle apesanteur. Des effluves érotiques se dégagent les profondeurs. Dans les courants volcaniques, tu t'abandonnes à la chaleur.
Étienne, c'est un passeur. Donc il a des idoles, il en a toujours parlé.
Nathalie Noënec, conseillère en images.
Il les a toujours, on va dire, honorés. Il a parlé de ses influences, mais c'est aussi quelqu'un qui... C'est les prédécesseurs et les successeurs.
Qu'est-ce que vous avez appris à son contact ?
De se questionner d'où vient l'inspiration ou la création. Lors de notre discussion, on aime bien parler de magie et de se rendre compte que on comprend pas ce qu'on fait et que de fait il faut continuer parce que c'est bien ça la voie intéressante dans la création. Et j'ai compris que les grands hommes pouvaient être des gentils, des doux et des attentifs. Il ouvre sans arrêt des portes à tout le monde. Il célèbre les jeunes générations. Il nous célèbre. Il fait des concerts où il invite la jeune génération. Il fait des expositions où il les montre en photo. Parmi aussi toutes les générations précédentes. Mais ce que je veux dire, c'est que peu de musiciens de son calibre célèbrent autant les suivants.
Il y a véritablement une entente avec cette génération depuis 5-6 ans qui comprend mon travail. Moi, j'aime aussi leur travail. Donc il y a cette zone d'affinité qui est naturelle, en fait. Le lien se fait d'une manière très naturelle. Ils aiment mon travail, j'aime le leur. Je les apprécie personnellement, ils m'apprécient personnellement. Et c'est important. Je m'entends beaucoup mieux, à la limite, avec des gens de cette génération qu'avec des gens de ma génération.
Alors Étienne, si je dois te dire quelque chose, ce serait merci. Merci pour ta musique et aussi pour qui tu es et pour ta présence pour moi et pour les autres aussi.
C'est ça qui est beau avec Étienne, c'est que c'est quelqu'un où on n'a pas à avoir des rapports de nostalgie avec lui. On peut avancer avec lui parce qu'il est...
Loudoyant.
Il est systématiquement doué et systématiquement généreux et nous offre des choses absolument incroyables tout le temps. Donc c'est vrai que ce qui est beau, c'est qu'il se réinvente beaucoup et qu'il réinvente son écriture. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de position qu'il a pris, comme s'il acceptait d'un coup de devenir une sorte de passeur. quelqu'un qui fait le lien entre ceux qui sont partis, ceux qui sont de l'autre côté d'une manière. C'est comme si maintenant il devient le lien entre nous et un Lou Reed, entre nous et un Syd Barrett, entre nous et les grands disparus, Bowie aussi. Enfin voilà, c'est il devient comme un parrain, comme un qu'il accepte lui-même d'être devenu mythologique d'une manière, d'être devenu iconographique et qu'en même temps qu'il remet ça en question. Alors c'est oui, je trouve ça très costaud, assez incroyable, et je pense d'ailleurs que c'est pas pour rien qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il est le seul comme ça en France.
Les médias francophones publics vous ont proposé Dao, fan de pop, une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer. Attaché de production Cécile Claire, narration Christelle André.
Elle repose au milieu du jardin, affolée par mille et un parfums. Son esprit déambule au-dessus des jasmins. Ivrogne rose, pourpre et carmin, affamé de senteurs et célestes vapeurs. Hiver montagne léger. Âmes et nos cœurs. Escortés par les anges et c'est la fin. Cuisés de figues mûres et raisins. Une heure de sarabande dans ces champs.
Prochain épisode, zoom sur un album majeur dans la discographie d'Étienne Dao, Eden, paru en 96.
Je pense que les gens n'étaient pas prêts à recevoir un disque comme ça à ce moment-là. Donc c'était un moment un petit peu compliqué, la maison de disque est un peu paniquée. Moi j'étais très fier de ce disque. Donc à partir du moment où je suis fier d'un disque artistiquement, je me fous de savoir s'il marche ou pas. Je préfère qu'il marche parce que le succès c'est toujours collectif. C'est le succès de tous les gens qui ont travaillé dans ce disque. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans ce disque. C'était monumental à faire. On a passé presque un an et demi à faire ce disque.
C'est un cheminement assez long parce qu'en fait, il y en a pour un an. On reste un an là-bas. Parce que Pop Saturé, on était resté deux mois. Là, on reste un an en Angleterre.
Arnold Turboust, coproducteur d'Eden.
Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire en fait essayer d'appliquer à nos mélodies, à nos idées de chansons, l'ambiance londonienne, en fait, ce qui s'y passe, les courants, essayer de s'en imprégner, c'est-à-dire en fait sortir, écouter des musiques, et puis les choses se sont faites petit à petit. Enfin, c'est très long, il est très très long à faire cet album.
Mais il est souvent cité comme peut-être l'un des meilleurs albums de la discographie d'Étienne Dao.
Ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que ça n'a pas été le cas à la sortie. Ça a été bien bien difficile et complètement incompris. Maintenant, je suis content, parce que c'est vrai que tout le monde me parle de cet album comme un de ses albums les plus aboutis, un album qui compte. Et c'est, je pense que c'est un album reflet de la musique de cette époque-là, c'est-à-dire en fait ces mélodies françaises un peu transposées, un peu avec la façon de faire des Anglais, quoi.
Et alors là, c'est drôle parce que, comme quoi, voilà, regardez, ben, voilà, un manager qui n'a rien compris à Eden, Patrick Perrin, et qu'il l'avoue, et Étienne était très content de son Eden, il est toujours content de son Eden, il a bien raison de l'être. Et alors, c'est très drôle parce que les tournées après, ils voulaient toujours mettre des titres d'Eden. Et puis moi, je disais, tu es sûr que tu veux mettre ce titre? Moi, j'étais toujours prêt à les enlever de la liste. Donc, c'est assez drôle parce qu'il savait très bien que pour moi, c'était un peu trop électro, trop branché. Donc cet Eden a été une chose drôle entre nous, ça, voilà. Mais c'est un album important, et ça, Étienne le savait, moi pas du tout.
J'avais ma flamme à déclarer, mais je suis inhibé. Tant de proximité m'a intimidé, figé par mon complexe d'infériorité, incohérent, maladroit, gêné, impossible de prononcer un seul mot sensé. Je me suis arraché vite la sortie, un trou de souris en proie à la confusion mentale, l'humiliation totale. Le regard en dessous bégayant, rougissant comme un genou, un adolescent. Bon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris d'habitude les effets? Je n'en abuse pas. Palapapa. Palapapa. D'infériorité, incohérent, maladroit, gêné, impossible de prononcer un seul mot sensé, timide intimité.
Timide intimité avec les Swingle Singers, un titre d'Eden, album que nous décortiquerons dans l'épisode suivant.
Une nouvelle chanson qui s'appelle Cette terre étrange.
Tu as toujours cet air étrange quand tu dis que je suis ton ange, ton gardien, cette chienne d'existence, chienne de vie. Que tu me ressens comme un double, que je suis ton fauteur de trouble, que tous les autres sont vraiment trop cons et vraiment pourris. Qu'au milieu des châteaux de sable, je reste ton élément stable, et qu'avec moi, tu voudrais bien niquer la vie. Et que si tu flirtes avec les cimes, tu entrevois aussi l'abîme, et que ça te fait très très peur, mais aussi très envie. Tu dis avec cet air étrange que lorsque nos corps se mélangent, c'est une ultime symphonie, un pas vers l'infini. Que tu me ressens comme un double, et que ça jette en toi le trouble, et que nous sommes insolemment gâtés pourris, et que si tu flirtes avec les cimes, tu entrevois aussi l'abîme, et que ça te fait très très peur, mais aussi très envie. Avec les anges, tu ne sais plus parfois sur quel pied danser, et tu t'enfuis. Tu dis qu'artiste est invivable, je pourrais bien aller au diable, et bien souvent tu me hais, ouais, tu me maudis. Que cet amour t'est dépendance, que ce serait ta délivrance, de me dire adieu, au revoir et pour tout, merci. Alors tu n'es plus du tout la 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 la, puis tu me recherches partout la 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 la. Et c'est reparti. Toujours cet air étrange, quand tu dis que je suis ton ange, ton gardien, cette chienne d'existence, chienne de vie. Et si tu flirtes avec les cimes, tu entrevois aussi l'abîme, et que ça te fait très très peur, mais aussi très envie. Que si tu flirtes avec les anges, tu ne sais plus parfois sur quel pied danser, et tu t'enfuis.